vortex et rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous présenter le roman Une autre lumière de Elizabeth Aylin, paru initialement en 1978 aux États-Unis sous le titre A Different Light et réédité en France en 2024 par les éditions Les Moutons Électriques. Elizabeth Aylin est née en 1946 à New York City. Après des études à Cleveland et à Chicago, elle travaille d'abord comme enseignante, puis comme cadre en milieu hospitalier. Elle propose également des conférences dans un programme d'éducation pour les femmes à San Francisco. En 1976, Lynn publie sa première nouvelle. En 1978, A Different Light, son premier roman de SF qu'on vous présentera dans cette émission, lui apporte un certain renom. Dans la suite, elle publie entre autres une trilogie fantastique, Les Chroniques de Tornor, un livre pour enfants et un recueil de nouvelles. Ses œuvres se distinguent par des personnages dessinés avec une grande sensibilité psychologique et elle est aussi parmi les premières à introduire des personnages ouvertement homosexuels dans ses récits. Elle est primée deux fois avec le World Fantasy Award avant de souffrir d'un grave blocage d'écriture, ce qui est souvent considéré comme la pire des choses qui puisse arriver à une écrivaine.
J'ai cherché à combler ce vide dans ma vie. Et ce que j'ai trouvé, c'est tout simplement le reste de ma vie. Je me suis remis aux arts martiaux avec enthousiasme, mes amis étaient toujours là, je n'ai pas cessé de lire des livres, et je me suis rendu compte que je pouvais vivre et être heureuse sans plus jamais écrire.
Pour gagner sa vie, elle prend alors différents boulots, vendeuse, conseillère fiscale et, pour finir, prof d'arts martiaux. À plusieurs reprises, elle réussit à retrouver l'écriture et publie le roman Dragon's Winter en 1998 et sa suite Dragon's Treasure en 2003. En France, son premier roman paraît en 1981 sous le titre L'œil du peintre aux éditions Jean-Claude Lattès dans la traduction de Bernard Ferry. Épuisée depuis longtemps, les éditions des Moutons Électriques le republient en 2024 dans une traduction revisée par André-François Ruault sous le titre Une autre lumière.
Le roman « Une autre lumière » est présenté dans son quatrième de couverture comme un space opéra gay. À la fois une histoire qui se passe dans des vaisseaux spatiaux sur différentes planètes et dont le personnage principal est bisexuel. Scénario assez rare pour un roman écrit en 1978. Son personnage principal, Jimson Aleka, est un artiste peintre qui est atteint d'un cancer incurable dans une société où la grande majorité des cancers peuvent être guéris. Le sien est stabilisé, mais il ne peut pas voyager, au risque de redéclencher le développement de sa maladie. Dans les premières lignes du roman, il reçoit un vésicube qui contient la photo 3D de Russell, son amant de jeunesse, ce qui le pousse à se questionner. Veut-il partir de sa planète Nouveau Terrain, au risque de mourir rapidement ? Voyager, peindre de nouvelles lumières sur d'autres planètes, essayer de revoir Russell, rompre l'ennui qu'il ressent sur nouveau terrain, mais réactiver la maladie, réduire considérablement la durée de sa vie? Jimson, on s'en doute, partira voyager, s'installera sur une nouvelle planète, rencontrera de nouveaux amis, peindra de nouvelles choses et sera entraîné dans des aventures improbables, mêlant à la fois magie et enquête. Thank you.
Avec le roman qu'on vous présente aujourd'hui, on revient d'une certaine manière aux origines. Car par plein d'aspects, Une autre lumière d'Elizabeth Aylin peut être considérée comme de la science-fiction assez classique. Un space opéra avec des voyages interplanétaires et des espèces extraterrestres. Lynn a notamment recours à des outils narratifs qui, à la fin des années 1970, peuvent déjà être caractérisés comme traditionnels dans la SF. Le concept de l'hyperespace, par exemple, répond au besoin de trouver une explication pour les voyages à des vitesses supraluminiques qui soient scientifiquement plausibles, mais pas trop compliquées à appréhender pour les lectrices. L'origine du concept est souvent attribuée à John Campbell en 1931. Et il s'est rapidement répandu dans les récits des SF, avec des variations. Il existe bien des hyperespaces en mathématiques, mais les hyperespaces fictionnels ne font qu'emprunter leur vocabulaire et ne correspondent à aucune théorie scientifique. C'est un excellent exemple pour ce qu'on appelle le technobabillage en science-fiction, un pseudo-langage scientifique pour rendre crédible un univers fictif.
L'hyperespace, c'est comme le commencement de toute chose. L'entropie est plus lente. Dans les congruences où se trouve notre galaxie, il y a l'espace et la poussière brillante. La poussière crée des formes, on les appelle proto-étoiles. Lorsqu'on s'y trouve, c'est tout ce qu'il y a. L'hyperespace, c'est l'univers. On en sort, bien sûr, pour retrouver Nexus ou Terra ou Nouveau Terrain, et l'herbe et la lumière du soleil. Mais on y retourne et on est seul. Sur un vaisseau aérien, on peut parfois apercevoir un autre vaisseau aérien dans le ciel, parallèle au sien ou plongeant dans les nuages, mais c'est une chose qu'on ne voit jamais dans l'hyperespace. Je ne sais pas pourquoi. On est seul. Le silence est si lourd en dehors du vaisseau qu'on a l'impression de respirer de la poussière et non de l'air. Le vaisseau devient ta peau, tu comprends ?
Traditionnellement, l'hyperespace fictionnel est accompagné de tout un tas de limitations, ce qui est aussi le cas ici. Il est difficile à mettre en œuvre, il est plus ou moins fiable, il est déroutant, voire dangereux, et il peut rendre fou. Parfois, il est réservé à une élite, ou alors, comme ici, les êtres habitués au voyage dans l'hyperespace, et sans attache particulière à des planètes, forment un groupe social à part, avec ses propres règles et coutumes.
Dans l'espace ? Les usages ne sont pas les mêmes qu'à Nouveau Terrain. Trois règles importantes. Premièrement, ne vous rendez pas dans les zones où vous n'êtes pas les bienvenus. Évitez particulièrement les quartiers où vivent les hyper, ils n'aiment pas les touristes. Deuxièmement, ne posez pas de questions personnelles. Vous pouvez poser des questions sur les stations, les vaisseaux, l'hyperespace, sur tout ce que vous voulez, mais ne vous montrez pas curieux de vos interlocuteurs. Dans l'hyperespace, c'est considéré comme une grave impolitesse. Troisièmement, sachez qu'à l'extérieur de la planète, seuls les hyper portent des bijoux. Aussi, dans toutes les stations, les vaisseaux et les villes où vivent les hyper, il vous faudra abandonner bracelets, boucles d'oreilles et ornements divers, à l'exception des anneaux très fins.
Si j'ai parlé plus tôt de technobabillage, il ne faut pas croire pourtant que n'importe quoi serait admis dès qu'on sort de la hard science fiction, donc de la SF basée sur les connaissances réelles dans les sciences dures. En 1976, l'écrivain Norman Spinrad propose des règles pour ce qu'il appelle la rubber science, littéralement la science en caoutchouc. Spinrad défend que la dimension spéculative est un élément essentiel à la SF et qu'il doit être plausible. Mais qu'il convient de l'appliquer avec soin, en considérant également les effets littéraires et narratifs. Par la suite, pas mal d'auteuristes s'y réfèrent, que ce soit en adoptant, en critiquant ou en redéfinissant ces règles. Si l'univers et certains ressorts narratifs du roman Une autre lumière relèvent donc bien d'une science-fiction assez classique, Lynn y traite pourtant des thématiques plutôt inhabituelles pour la SF de son époque.
Le personnage principal du roman, Jimson Aleka, c'est un artiste qui dessine, peint ou sculpte des tableaux. Et ça, c'est assez rare dans la SF d'avoir des personnages principaux qui sont des artistes. On est plus habitué à lire le regard de scientifiques, par exemple. Et en tout cas, ce choix impacte réellement le texte et l'écriture de Elizabeth Allin. Par exemple, la manière de dessiner ou d'être inspiré pour créer font réellement partie du récit. C'est un des moteurs qui pousse Jimson à partir de sa planète. C'est le fait de chercher d'autres lumières, d'autres soleils à représenter. Et il part chercher de l'inspiration, mais il quitte aussi un milieu artistique qui l'étouffe.
J'ai vu votre exposition il y a 4 mois. Je l'ai beaucoup aimée. Il y eut un mouvement de colère. Il n'y avait rien de nouveau à cette exposition. Tout était éventé, comme de la vieille bière, et parfaitement ennuyeux. Mon agent m'a dit que ça avait été un grand succès. Un immense succès. Il imitait le ton enthousiaste de Samson. Mais pourquoi se mettre en colère contre Raina? Rien de tout cela n'était de sa faute. Ce n'était en fait que... Ah, quel ennui! Autrefois, Las Flores avait été un endroit magique, un lieu d'évasion, une ville d'artistes. C'est en la découvrant qu'à 16 ans, il avait découvert le monde, avant de visiter les villes de nouveaux terrains. Il avait maintenant 30 ans et ne pouvait plus aller nulle part. Tandis que derrière lui, les années qui s'entassaient comme les pierres d'une vieille bâtisse menaçaient de l'étouffer.
Le roman décrit des processus de création, comment Jimson trace des croquis, puis les reprend et construit une œuvre finale avec différentes techniques de dessin. Et ça aussi, c'est assez original dans un roman, de décrire comment l'artiste s'inspire du monde qui l'entoure, le dessine, et choisit des outils ou des techniques de peinture.
Sur Nexus, il trouverait le matériel nécessaire pour terminer ses dessins. Il comptait dessiner la plupart des masques à la plume, mais graver le dragon et la dame d'albâtre à la pointe sèche, et le masque bleu sur une carte à gratter. Il n'avait besoin que d'une semaine de travail pour rendre le tout.
Le récit est impacté par le regard du narrateur, par le regard de l'artiste. Le texte fourmille de descriptions et de détails sur les formes, les couleurs et les textures de ce que Jimson Aleka regarde, de ce qui l'inspire. Et ces descriptions sont dans un registre très visuel, avec un fort sens de l'esthétique, et elles sont parfois même vaguement nébuleuses ou délirantes.
Une lumière brillante baignait une vaste étendue où s'élevaient des formes qui ressemblaient à d'énormes rochers. Rondes, ovales, effilées, carrées, comme des jouets fabriqués à partir d'argile ou de cure-pipe. Ce n'étaient ni des rochers, ni des jouets, mais des vaisseaux spatiaux. Les rangs sont des vaisseaux passagers, dit l'écho. Les polygonaux sont des cargos, ceux qui ressemblent aux navettes sont des robots sondes sans pilote. Leur taille défiait l'imagination. La lumière les frappait de curieuses façons et découpait sur le sol des ombres aux contours nets qui agaçaient la vue. Au-delà des vaisseaux, un rideau d'étoiles barrait l'horizon. Ces engins ne semblaient pas avoir été faits par l'homme. Il posa la main sur la surface froide et transparente du ciel. « Il y a une bulle là derrière, » dit l'écho. « Quoi ? Une bulle ?» Elle avança son visage près du sien. Son souffle était chaud sur sa joue. Là, du doigt, elle traça une ligne sur la surface transparente. Soudain, il vit, ou presque, quelque chose entre ses yeux et les vaisseaux. Rien d'autre ne bougeait aux alentours. Puis, cela disparut. Il attendit. Rien. Il s'apprêtait à prendre son carnet dans son sac lorsque l'écho lui saisit le bras. Comme une pierre portée à l'incandescence, un des vaisseaux changeait de couleur et passait du pourpre au bleu, au vert, à l'orange, à l'écarlate et au rouge profond. Puis, il disparut.
L'autrice prend vraiment le temps de décrire les paysages, les lumières, les corps des personnages. Et c'est certainement pas l'idéal pour les lectrices qui n'aiment pas trop les descriptions, mais elles sont jamais très longues, et ce sont plutôt plein de petites touches qui parsèment le texte et le rendent très sensible. Et le récit est ponctué de poèmes ou d'extraits de poèmes, ce qui est là aussi assez rare dans la science-fiction.
Jimson opina. Il songeait au poème qu'il avait écrit après avoir vu une série de tableaux d'un peintre terrien nommé Vincent van Gogh. Assurément, il est mort fou. Qui d'autre qu'un fou eût pu voir sous un ciel de nuages ce flamboyant frisson, ce cœur de cuivre palpitant. Personne, assurément, ne sut voir dans les arbres ces géants galopants en une folle ivresse aux couleurs de démons. Comme l'océan, la terre moutonnait sous ses pas. Regarde, tout est calme ici. Les fermes sont semblables à celles de partout. Les blés ne dansent pas au sabbat du vent. Alors va-t'en à Arles et regarde. Combien le soleil a rougi la terre brune, bleuit les arbres verts. Regarde les frissons du soleil. Nos yeux ne nous appartiennent pas. Depuis lors, tout a changé.
Vous êtes toujours à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Dragon et Radio Campus Grenoble.
Aujourd'hui, on vous parle du roman Une autre lumière d'Elizabeth Aylin.
Un autre choix que fait l'autrice Elizabeth Aylin et qui est assez inhabituel, c'est le fait de mettre au centre de l'histoire un personnage atteint d'un cancer incurable. Et la maladie et son impact sur la vie et les relations du narrateur sont centrales dans le récit, et ça le rend d'autant plus précieux qu'il vient briser le tabou qui persiste autour de la maladie, des douleurs, de la peur de la mort, etc. La maladie contraint le narrateur à des soins réguliers, à des rendez-vous de contrôle, et il lui est fortement déconseillé de quitter la planète où il se trouve, car voyager dans l'hyperespace, ça pourrait réactiver son cancer qui est pour le moment stabilisé. Mais la maladie a d'autres conséquences, moins visibles. Jimson Aleka décrit par exemple les douleurs, la fatigue ou les effets indésirables des médicaments. Et il fait des descriptions précises, raconte l'impact sur ses activités. Parfois, il ne peut plus bouger ou il doit s'arrêter de dessiner.
Sa jambe le faisait parfois souffrir, mais toute sa vie, il avait vécu avec cette souffrance. Il n'était pas vrai, comme il avait lu une fois quelque part, que la douleur finissait par devenir une vieille amie. La douleur n'était jamais une amie. 3 années auparavant, elle l'avait terrassée. Avec cette souffrance intolérable qui lui vrillait les os, il n'était plus qu'un tas de viande crue accrochée à son squelette branlant, comme à un râtelier. Seul dans son studio, il avait roulé sur le sol, les genoux repliés sur la poitrine, incapable de crier. Il l'avait examiné jusqu'au tréfonds de lui-même et avait ensuite modifié le traitement. Depuis lors, il utilisait ce même médicament, synthétisé sur Myra. Qu'en serait-il le jour où plus aucun médicament ne parviendrait à calmer la douleur ?
Le vocabulaire pour parler de la douleur est assez diversifié, mais surtout il ne quitte jamais le récit. Tout comme la douleur ne quitte jamais le personnage. Mais au-delà de la douleur, la maladie fait intimement partie du personnage. C'est comme une part de son identité.
« À quoi penses-tu ? » demanda Leiko en s'asseyant sur le lit. « À la célébrité. Ça te plaît d'être célèbre ?»«
Ça ne me fait ni chaud ni froid, » répondit Jimson.
« Est-ce que tu y pensais lorsque tu as commencé à dessiner ?»«
Non. » »«
J'ai commencé à dessiner, » songea-t-il, « lorsque les médecins m'ont dit que j'étais malade et incurable. Je dessinais tout et n'importe quoi comme un forcené parce qu'il y avait un monde, une douzaine de mondes, un univers à découvrir et que mon temps m'avait été volé. Je remplissais mes carnets d'esquisses, souvent mauvaises, presque jamais achevées, bâclées. Je pensais seulement à tous les endroits que j'avais envie de voir. »
Si le personnage est en prise perpétuelle avec la douleur et la maladie, il est aussi en permanence confronté à sa propre mort, ce qui lui provoque tantôt de la peur, tantôt de la hargne, mais souvent un sentiment de solitude. Le roman montre aussi comment la maladie a des impacts sur les relations sociales, sur les amours, les amitiés ou les relations avec les soignants. Et le plus évident est le fait que l'amant de Jimson Aleka n'a pas supporté l'idée que ce dernier soit malade, n'a pas supporté l'idée de sa mort et qu'il a choisi de fuir la situation en devenant hyperspatien. Il a préféré la rupture plutôt que le soutien. Mais d'une manière, toutes les relations sont impactées par la maladie. Et cela, Elizabeth Aylin le décrit très bien, avec les questions de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, de la distance et de la solitude.
Il revit en esprit les couleurs et les larges avenues blanches de Las Flores. Les autres, ils s'amusent. Ils font de jolies images. Ce n'est pas cela l'art. C'est tout ce que tu es capable de donner. C'est ce qui demeure quand au détour d'un chemin, tu aperçois la route avec le cavalier qui vient à ta rencontre. Ça demeure parce que c'est dans ton propre sang que tu as trempé ton pinceau.
Il sentait la rage monter en lui. Et le sang de tous les enfants que tu n'auras jamais, à cause des famines, des guerres ou des maladies ou des dégénérescences. Voilà d'où vient l'art. Il ravala sa fureur pour qu'elle comprît. Mon art, c'est mon âme, dit-il enfin. C'est cette partie de moi-même qui ne mourra jamais. Les larmes inondaient ses joues. Elle pleurait pour lui et pour elle-même, peut-être, mais il voyait qu'elle ne comprenait pas. Elle ne pouvait pas comprendre. Elle allait partir, sans jamais connaître la mort froide dans ses os. Jamais ils ne comprennent, pensa-t-il. Ils ne font que partir. Il avait envie de frapper, puis il eut envie de pleurer.
Dans le roman « Une autre lumière », quand l'autrice décrit comment la maladie peut impacter les relations, elle soulève aussi la question importante du paternalisme. Comment d'autres personnes veulent parfois protéger la personne malade, prendre des décisions à sa place, soi-disant pour son bien, veulent la soutenir selon leur propre idée, mais sans prendre en compte ni ses besoins ni ses envies.
Lorsqu'ils atterrirent à Nexus, Jimson se sentait à peu près bien, mais il évita de se regarder dans une glace. Une fois qu'il eut rassemblé toutes ses affaires, Russell voulut porter son sac. « Je le porterai moi-même, » dit sèchement Jimson. L'écho ouvrit la porte extérieure du vaisseau et un flot de lumière, infiniment plus brillante que l'éclairage artificiel, se répandit sur le plancher. Une chaude odeur de métal monta jusqu'à eux. Le médaillon de Russell se mit à scintiller au soleil. « Où irons-nous d'abord ?» demanda Leiko. « À la clinique, » dit Russell. « Non, » dit Jimson. « Comment ça, non ?»« J'ai dit non, je vais très bien. Je ne veux pas aller dans une clinique avant d'en avoir vraiment besoin. » Il se tenait très droit, s'efforçait d'oublier la douleur qui lui vrillait les os. « Je veux aller chez Rin. »
La question du libre choix dans la maladie, du droit d'avoir ses propres choix et stratégies, est particulièrement bien thématisée. Elle apparaît notamment dans la décision de Jimson Aleka de partir sur d'autres planètes, au risque de redéclencher son cancer et d'accélérer sa mort.
Jimson rêvait de Dakar. « Où en sont les recherches ?» demanda-t-il. « Une seule chose est certaine, dans l'hyperespace, 96% des cancers mutent et se développent. Cessez de rêver. Il y a ici un monde entier pour vous. Mais ici, je ne travaille plus. Je suis comme un rat en cage. » Un rat illustre, certes, et la cage est dorée, mais je ne peux oublier les barreaux.
Le parti pris d'Elisabeth Aline est vraiment très chouette. De valoriser le fait qu'une personne peut choisir pour elle-même ce qui lui importe le plus, ce qui lui est le meilleur, quel que soit l'impact sur sa santé. Le roman raconte que la survie à tout prix n'est pas l'unique choix possible, qu'on peut prendre d'autres décisions, qu'il y a plusieurs manières d'améliorer sa qualité de vie, même si parfois, ces options ont des conséquences sur l'espérance de vie.
On ne peut pas vraiment parler du roman « Une autre lumière » sans mentionner qu'il s'agit aussi d'une histoire d'amour assez romantique. Ou en fait, de plusieurs histoires, car le protagoniste Jimson ne part pas seulement à la recherche de son grand amour de jeunesse, Russell, mais il a aussi une histoire avec Leiko qu'il rencontre assez tôt sur son périple. J'aime assez bien comment c'est raconté, comment des choses sont parfois explicitées entre les personnages, comment des relations évoluent et changent. Et pour un roman publié en 1978, ce n'est pas rien que la bisexualité et l'homosexualité des personnages soient posées comme une évidence qui n'est pas discutée. Elles font simplement partie de la réalité du récit.
Jimson se pencha pour prendre son verre. Plus tard, il se rappellerait ce moment. Brefs éclairs traversant la chaude vapeur du vin. Il y avait de la musique. douce puis rapide et durement cadencée. Leiko dansait, mince et souple comme une flamme au milieu de la pièce. Assis sur le sofa, Isao tenait la bouteille qui, dans ses mains énormes, ressemblait à une dérisoire divinité. Il parlait avec Russell. De l'encens brûlait. Leiko vint un instant s'asseoir sur les genoux de Jimson. Ses cheveux sentaient la prune, ses lèvres avaient le goût du vin. Russell s'était installé sur la coudoir de Jimson. Jimson qui parlait et parlait, un débit désordonné et trop abondant. Nouveau terrain, son art, la clinique et le disque de prescription, Ensel, le monstre télépathe et la lune Epsilon. Le jour vira au mauve et ce fut la nuit. Une nuit qui n'en finissait pas, quand tout à coup ce fut le matin. Ils sortirent pour voir s'éteindre les lumières de la cité, juste avant que surgît le soleil. « Je crois que des feuilles de vigne dans les cheveux m'iraient à merveille ce matin, » dit Jimson. « Déjà que tu ne tiens pas bien sur tes jambes, » lança Leiko en riant. « Sûr qu'avec ce poids supplémentaire, tu te retrouverais le cul par terre. » Russell s'approcha de la fenêtre aux lierres, il en arracha une longue guirlande feuillue et posa sur les cheveux de Jimson une couronne scintillante de rosée. « Bacchus, » déclara-t-il. Il caressa la joue de Jimson qui sourit. C'était Russell qui était dionysiaque, avec ses boucles flamboyant dans le soleil et son visage rosi par le vin.
On s'approche de la fin de notre épisode et évidemment, il y aurait encore plein de choses à dire de ce roman, qui nous a plu aussi parce que son écriture est plutôt agréable à lire, parce qu'il parle de plein de rencontres avec d'autres personnages intéressants, et parce qu'il a aussi un côté roman d'aventure bien rythmé, animé notamment par le personnage de Russell. À vous de découvrir tout ça. Et pour finir sur une anecdote, ce roman avait donné son nom, A Different Light, à une chaîne de librairies LGBT à Los Angeles, New York et San Francisco. Entre 1983 et 2001, ces librairies étaient des lieux importants pour ces communautés et ont joué un rôle non négligeable dans le lancement de plusieurs autrices gays et lesbiennes.
Et enfin, nous voulons dédier cet épisode de Vortex et Rotative à notre ami Lunar, qui, après avoir trouvé des manières de vivre pendant 10 ans avec un cancer, est parti le 8 novembre 2024 pour aller voir d'autres lumières.
En bon geek, il partageait avec nous la passion pour la science-fiction, notamment en tant qu'outil pour formuler une critique sociale et politique du monde dans lequel nous vivons, et pointer des mécanismes de domination avec du recul, des métaphores et des détours.
C'était aussi un complice à dénoncer les dérives de la science-fiction, notamment dans le rapport aux technologies et au militarisme.
À ce sujet, on vous invite à réécouter son intervention « Science-fiction, jeux vidéo et société, à quel futur sommes-nous préparés ?» dans un live en ligne de novembre 2020.
On mettra un lien vers cette intervention dans la présentation de l'épisode sur le site de Campus Grenoble et sur le site Radio Rageuse.
C'était le 30e épisode de Vortex et Rotative. On vous a parlé du roman Une autre lumière, écrit par Elizabeth Hanlin en 1978.
Le roman a été réédité en 2024 avec une traduction révisée par les éditions Les Moutons Électriques et il fait 250 pages.
L'émission est montée avec des bouts de musique du compositeur et musicien messin Chapelier Fou.
On est toujours à un rythme bimestriel, alors on vous retrouve dans 2 mois avec un nouvel épisode de Vortex et Rotative. Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.